Chapitre 13. Un humain sophistiqué peut devenir primitif. Cela signifie en réalité que l'existence humaine change. Les anciennes valeurs changent, sont reliées au paysage avec ses plantes et ses animaux. Cette forme de vie nouvelle exige une connaissance pratique de ce réseau complexe d'événements simultanés que l'on désigne sous le nom de « nature ». Elle exige une dose de respect pour la puissance d'inertie de tel système naturel. Lorsqu'un humain acquiert cette connaissance pratique et ce respect, c'est alors qu'on le dit primitif. Le contraire, bien sûr, est également vrai. Le primitif peut devenir sophistiqué, mais non sans subir d'effroyables dommages psychiques. Le commentaire de Leto, d'après Arcalada.
Comment pouvons-nous être certains ? Demanda Ganima. Ceci est très dangereux.
Nous l'avons essayé auparavant, remarqua Leto.
Ce pourrait être différent cette fois, si
c'est la seule voie qui nous demeure ouverte. Tu as admis que nous ne pouvions suivre celle de l'épice. Ganima soupira. Elle n'aimait pas l'escrime des mots, mais elle avait conscience de la nécessité impérieuse qui animait son frère, de même qu'elle n'ignorait pas la peur qui était à la source de ses propres réticences. Il leur suffisait de contempler Alia pour connaître les périls du monde intérieur. « Eh bien ?» s'impatienta Leto. Elle soupira à nouveau. Ils étaient assis, jambes croisées, dans l'un de leurs refuges, un boyau étroit qui s'ouvrait au flanc de la falaise. Depuis cet endroit, souvent, leur père et leur mère avaient contemplé ensemble le lever du soleil sur le bled. Ils se trouvaient là depuis la fin du dîner, 2 heures auparavant. À 7 heures du soir, les jumeaux étaient censés donner de l'exercice à leur corps aussi bien qu'à leur esprit. Cette fois, ils avaient décidé d'assouplir leurs esprits. « Si tu refuses de m'aider, » reprit Leto, « j'essaierai seul. » Ganima détourna les yeux sur les tentures noires des seaux d'humidité qui isolaient le boyau de l'extérieur. Leto continuait de contempler le désert. Depuis quelque temps, il parlait en un langage tellement ancien que son nom s'était perdu dans les âges. Ainsi leur pensée demeurait-elle secrète, empruntant une forme qu'aucun autre humain ne pouvait déchiffrer. Alia elle-même, qui se tenait à l'écart du dédale de son monde intérieur, ne pouvait disposer des liaisons mentales qui lui auraient permis de comprendre plus que quelques mots isolés. Leto inspira profondément. Il perçut le relent caractéristique du siège dans l'air stagnant de leur refuge. Mais ici, ils échappaient au brouhaha sourd et à la chaleur moite de la caverne, ce qui était un soulagement.
« J'admets que nous avons besoin d'être guidés, » dit Ganima. « Mais si nous,
Gani, nous ne devons pas être guidés, mais protégés.
Peut-être n'y a-t-il pas de protection ?»
Elle plongea le regard dans les yeux de son frère, les yeux vigilants d'un prédateur qui surprenait dans ce visage placide. « Nous devons échapper à la possession, » dit-il. Il employait l'infinitif spécial du langage ancien, une forme absolument neutre quant à la voix et au temps, mais dont les implications étaient profondément actives. Ganima interpréta correctement la réflexion de son frère.
« Mou pium dmi ishmomka, » psalmodia-t-elle.
La capture de mon âme est la capture de 1000 âmes.
Bien plus que cela, fit Leto. Connaissant les dangers, tu persistes, répondit Ganima. C'était une constatation, non une question.
Waboum kawabunat.
Dresse-toi, toi, le plus haut. Le choix qu'il faisait, il le sentait, était une nécessité évidente. Une telle chose serait mieux accomplie activement. Il leur fallait ramener le passé dans le présent pour lui permettre de se déployer dans leur avenir.
« Muriat, » admit Ganima à voix basse,
« cela doit être fait avec amour. »
Bien sûr.
Il agita la main pour signifier une totale acceptation. Nous consulterons donc ainsi que l'ont fait nos parents. Ganima demeura silencieuse, luttant contre la boule qui s'était formée dans sa gorge. Instinctivement, elle porta les yeux vers le sud, vers le grand erg. Des lignes grises de dunes, estompées, apparaissaient encore dans les dernières lueurs du jour. Son père était parti là-bas
pour son dernier voyage dans le désert. Leto, lui, regardait vers le bas, l'oasis du Sietch au pied de la falaise. Le crépuscule était venu, mais il en connaissait les moindres formes, les plus subtiles couleurs. Des bourgeons de cuivre, d'or, de jaune, de roux et de rouille se levaient entre les rocs qui balisaient les plantations du Kanat. Au-delà, une étroite bande de végétation arachine achevait de pourrir, tuée par les herbes et les plantes étrangères, noyée par l'eau, et formait à présent une barrière contre le désert.
« Je suis prête, » dit Ganima. « Commençons. »«
Oui, au diable. » Il tendit la main, lui prit le bras comme pour atténuer la violence de son exclamation.
« S'il te plaît, Gani, chante-moi cette chanson. Ce sera plus facile comme ça. »
Elle se rapprocha alors de lui et son bras gauche vint en serrer sa taille. Elle prit deux profondes inspirations, s'éclaircit la gorge et commença de chanter d'une voix limpide les paroles que sa mère, si souvent autrefois, avait chantées à son père. « Voici que j'accomplis ta promesse, que j'amène sur toi la pluie. La vie régnera hors du vent. Mon amour, dans le palais de ta vie. Tes ennemis retourneront au néant. Toi et moi serons seuls sur le chemin, sur le parcours de notre tendresse. Car moi seul connais le dessein, puisque mon amour est ta forteresse. »
Le son de la voix de Ganima glissa au désert, plongea vers ce silence total que le moindre murmure pouvait fracasser. Et Leto s'enfonça dans le tapis épais et mouvant des souvenirs de son père, déployé sur le proche passé comme une neige génétique.
Pour ce bref instant, se dit-il, il me faut être Paul.
Ce n'est plus Gani qui se trouve là à mes côtés, mais Shiny, ma bien-aimée, dont les conseils éclairés nous ont bien des fois sauvés.
Gani, quant à elle, s'était infiltrée dans la mémoire de sa mère avec une aisance terrifiante, ainsi qu'elle l'avait prévu et craint. Pour la femelle, l'opération était plus facile et bien plus dangereuse. D'une voix devenue rauque, soudain, elle appela.
« Regarde, mon bien-aimé. »
La première lune s'était levée, et sous sa froide lueur, il pouvait voir un arc de feu orange qui montait de l'ombre des sables à l'espace. Le transport qui avait amené Dame Jessica, ayant fait le plein d'épices, allait rejoindre la flotte en orbite. Au tréfonds des souvenirs, des fragments précis de mémoire s'éveillèrent dans l'esprit de Leto, et leurs images étaient comme autant de carillons aux échos vifs et pressants. Dans un vacillement d'identité, il fut un autre Leto, le duc de Jessica. L'urgence de l'instant eut raison de ses souvenirs, non sans qu'il ait eu le temps d'éprouver l'aiguillon de la souffrance et de l'amour.
« Je dois être Paul », se rappela-t-il.
La transformation s'accomplit et le partagea de façon effrayante, comme s'il constituait un écran sombre sur lequel soudain était projetée l'image de son père. Il conservait sa chair propre, mais il était aussi celle de son père, et la palpitation de leur différence menaçait en permanence de le surprendre.
« Aide-moi, père, » souffla-t-il.
Le schéma de leurs identités changea et la projection devint différente. Cette fois, il se trouvait en position d'observateur. Il était Leto. Il se tenait d'un côté de la vision.
« Ma dernière vision ne s'est pas encore réalisée, » dit-il. Sa voix était celle de Paul. Il se tourna vers Ganima.
« Tu sais ce que j'ai vu ?»
Elle porta la main droite à la joue de son frère.
« Es-tu allé au désert pour y mourir, mon bien-aimé ? Est-ce bien là ce que tu as fait ?»«
Cela se pourrait, mais cette vision, ne serait-ce point là une raison de survivre ?»«
Aveugle ?»«
Même aveugle. »«
Mais où pourrais-tu aller ?»
Il eut une inspiration vibrante, douloureuse.
« Ajakuruto. »
« Mon aimé !»
Les larmes ruisselèrent sur les joues de Ganima.
« Mouad Dib, le héros, doit être totalement effacé. Sinon cet enfant ne pourra nous extraire du chaos. »«
Le sentier d'or, ce n'est pas une bonne vision. »«
C'est la seule vision possible. » »«
Alia a donc échoué ?»«
Totalement. Tu sais ce qui a été écrit. »«
Ta mère est revenue trop tard. »
Elle acquiesça, et ce fut la sagesse de Shiny qui s'imprima sur ses traits d'enfant.
Ne pourrait-il y avoir une autre vision?
Peut-être que si...
Non, mon aimé, pas encore. Cet enfant ne peut encore discerner le futur et en revenir sauf.
Une fois encore, le corps de Leto fut agité d'un souffle vibrant, et l'enfant Leto perçut l'aspiration violente de son père à retrouver une chair pour vivre, à prendre des décisions humaines, et son désir désespéré de défaire les erreurs passées.
« Père !» appela Leto,
et ce fut comme s'il hurlait à tous les échos dans son crâne vide. Lentement, profondément, il le sentit. Son père se retirait, sa présence refluait. Ses sens et ses muscles lui revenaient.
« Mon aimé !»
chuchota la voix de Shiny. Et le repli s'interrompit.
« Mon aimé, que se passe-t-il »«
Ne t'en va pas encore, » dit Leto. Et la voix, aussi hésitante et rauque qu'elle fût, était la sienne. « Shiny, il faut que tu nous dises. Comment pouvons-nous éviter ce qui est arrivé à Alia ?» Ce fut Paul, le Paul qui était en Leto, qui répondit. Et ses paroles furent pénibles, hésitantes, dans l'oreille interne de Leto.
« Rien n'est sûr. Tu as vu ce qui a failli se passer avec moi.
Mais Alia,
le maudit baron la tient. »
Leto eut soudain la gorge brûlante. « Est-il...
Ai-je... Il est en toi. Mais je... Nous ne pouvons... Parfois nous communiquons, mais tu...
Peux-tu lire mes pensées ? » demanda Leto. Est-ce que tu ne saurais pas alors si...
Il... Parfois je perçois tes pensées. Mais je... Nous ne vivons que par le reflet de ta conscience. Ta mémoire nous engendre. Le danger, c'est une mémoire précise. Et ceux d'entre nous qui aimaient le pouvoir, ceux qui l'acquéraient à tout prix, peuvent être plus précis.
Plus fort ? Murmura Leto.
Plus fort.
Je connais ta vision, dit Leto. Pour qu'il ne me possède pas, je deviendrai toi.
Non, pas cela.
Leto hocha la tête. Il avait conscience de la colossale volonté dont son père avait fait preuve en refluant, considérant les conséquences de tout échec à y parvenir. Il n'était pas une seule possession qui ne réduise le possédé à l'état d'abomination. Il admit cela et en connut un sentiment de puissance accrue, en même temps qu'il avait une perception anormalement intense de son corps et une totale et profonde connaissance de ses fautes passées. Les siennes propres et celles de ses ancêtres. Les faiblesses, il le voyait à présent, n'étaient dues qu'aux incertitudes. Pour un instant, en lui, la tentation affronta la crainte. Cette chair avait le pouvoir de transformer le mélange en une vision de l'avenir. Avec l'épice, il pourrait inspirer le vent du futur, écarter les rideaux du temps. La tentation était difficile à briser. Il riva ses mains l'une dans l'autre et se plongea dans la transe de perception prana-bindu. Sa chair rejeta la tentation. Elle portait le message que Paul avait appris dans le sang. Ceux qui allaient vers le futur espéraient en ramener les numéros gagnants. Au lieu de quoi il se trouvait pris au piège d'une vie entière dont il connaissait par avance chaque battement de cœur, chaque gémissement d'angoisse. L'ultime vision de Paul lui avait révélé le difficile itinéraire qui permettait d'échapper au piège. Et Leto savait maintenant qu'il ne lui restait aucun autre choix. L'existence, dit-il. Sa joie, sa beauté sont contenues dans le fait que la vie peut vous surprendre. Une voix murmura doucement à son oreille.
J'ai toujours connu cette beauté.
Leto tourna la tête et rencontra les yeux de Ganima qui reflétaient le clair de lune.
C'était Shiny qui le regardait.
Mère, dit-il, tu dois te retirer.
Ah, la tentation, fit-elle.
Et elle se pencha et l'embrassa.
Il la repoussa.
Prendrais-tu la vie de ta fille? C'est si facile, si bêtement facile.
Gagné par la panique, Leto se souvint du terrifiant effort de volonté qu'il avait fallu à la persona de son père pour abandonner sa chair. Ganima était-elle perdue dans ce monde d'observateurs où il s'était trouvé, épiant et écoutant, apprenant de son père la réponse qu'il avait requise?
« Je te mépriserai, mère, » dit-il. « Les autres ne me mépriseront point. Sois mon bien-aimé. »
« Si cela était, tu sais ce que vous deviendriez l'une et l'autre. Mon père te méprisera.
Jamais je te mépriserai. »
Ces mots jaillirent de sa gorge en dehors de sa volonté, et ils portaient en eux les anciennes harmoniques de la voix que Paul tenait de sa sorcière de mère.
« Ne dis pas cela, » gémit-elle.
« Je te mépriserai. »
« Je t'en prie, ne le dis pas. »
Leto porta la main à son cou. Il sentit que ses muscles lui appartenaient de nouveau.
« Il te méprisera, » dit-il.
« Il se détournera de toi. Il retournera dans le désert. »
« Non. Non. »
Ganima secouait violemment la tête.
« Mère, » reprit-il, « tu dois te retirer. »
« Non. Non. »
Mais il n'y avait plus autant de force dans la voix qui implorait. Leto observa le visage de sa sœur. Chaque fibre de chaque muscle vibrait en réponse au tourbillon qui se déchaînait dans sa chair.
« Va-t'en, » dit-il. « Va-t'en. » « Non. »
Il lui saisit le bras, sentit sous ses doigts les muscles qui tremblaient, les tendons qui tressaillaient. Elle se débattit, essayant de lui échapper, mais il la maintint fermement sans cesser de murmurer « Va-t'en. Va-t'en. »